J'en savais rien, d'accord? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu?
Non, non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu! Tu as perdu! Tu comprends? Tu ne joues plus!
Bienvenue dans Aléa, l'émission qui parle du jeu et des jeux. C'est Simon au micro. Pour introduire cette chronique, j'aimerais vous parler non pas d'un jeu, mais d'un type de jeu. Les jeux de placement de tuiles. Note préalable, cette chronique prend le parti de parler au féminin, mais quel que soit le genre auquel vous vous identifiez, elle s'adresse tout autant à vous. Allons-y. Un jour, un ami à qui je parlais d'un jeu récemment acquis finit par me dire « Ah, encore un jeu de placement de tuiles. C'est vraiment ton truc. » Et il est vrai qu'en regardant ma ludothèque, on y remarque une prédominance de ce genre de jeu. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, si cette étiquette reste floue pour vous, mentionnons celui qui est sans doute le plus célèbre des jeux de placement de tuiles, l'un des classiques modernes comme s'invente son éditeur, j'ai nommé le best-seller Carcassonne. Dans ce jeu, à chaque tour, les joueuses piochent des tuiles de terrain qu'elles agencent d'une certaine manière. Chacune s'approprie ce territoire nouvellement ajouté à l'aide de ses pions, et à la fin de la partie, on compte les points selon le nombre de routes tracées, de villes fortifiées, de champs labourés et d'abbayes érigées par chacune. Avant cela, au fur et à mesure que la partie progresse, un territoire au départ minuscule grossit, se développe, et c'est finalement toute une province médiévale qui apparaît sous nos yeux, comme par miracle. Dans le formidable Quadropolis de François Gandon, il vous est proposé de bâtir une ville sur une grille de 4x4 cases, en piochant les différents bâtiments de cette ville dans une réserve commune. Chaque quartier permet de marquer des points de manière différente, notamment en fonction des bâtiments adjacents. Alors commence pour vous le casse-tête de l'agencement de vos tuiles, pour chercher les meilleures combinaisons. À la fin, on compte les points en regardant comment les quartiers ont été construits, et on peut, par curiosité, analysez les orientations urbanistiques que vous et vos adversaires avez choisies dans vos villes. Avez-vous misé sur une ville portuaire et industrielle, plutôt sur des quartiers pavillonnaires maillés de parcs et de commerces, ou encore sur une ville aux quartiers résidentiels très denses et dotés de nombreux services publics? Quoi qu'il en soit, en quelques tours, vous avez fait sortir de terre toute une métropole avec son identité et ses spécificités urbanistiques. Et c'est là, je crois, ce qui me plaît tant dans les jeux de placement de tuiles. Leur caractère démiurgique qui fait que chaque placement d'une nouvelle tuile met en jeu votre puissance créatrice. Qu'il s'agisse de faire sortir de l'eau une île volcanique dans Taluva, d'assembler un vaisseau qui devra affronter 1000 dangers spatiaux dans Galaxy Trucker ou de composer dans le jeu Azul un mur d'azulejo, ces jolis carrés de faïence du Portugal, vous voilà doté le temps d'une partie du pouvoir de création d'un monde, contraint seulement par les règles de l'univers ludique dans lequel vous vous êtes plongé. J'aimerais maintenant prendre un peu de recul et m'interroger sur les raisons profondes qui nous poussent vers certains types de jeux plutôt que vers d'autres. Formulé plus simplement, qu'est-ce qui fait que nous aimons les jeux que nous aimons? Pour répondre, commençons par digresser. Parmi les théories qui décrivent l'intelligence humaine, le modèle Cattell, Horn, Carroll ou modèle CHC fait consensus parmi les spécialistes. Selon ce modèle, l'intelligence humaine peut être décomposée en plusieurs capacités cognitives ou, si l'on veut, en plusieurs domaines d'intelligence. Les capacités de compréhension et de connaissance, la capacité de raisonnement fluide, la capacité d'analyse visio-spatiale, les capacités de mémoire à court terme, etc. On définira la capacité dite de raisonnement fluide comme la capacité à raisonner ou à conceptualiser et à résoudre des problèmes en utilisant des informations nouvelles ou des procédures neuves. La capacité visio-spatiale est, elle, la capacité à percevoir, analyser, synthétiser et penser à partir de supports ou de représentations visuelles. Chacun de ces domaines peut, en chaque individu, être plus ou moins développé, ce qui fait que nous ne fonctionnons pas tous pareil d'un point de vue cérébral. Certaines seront très fortes pour résoudre des problèmes de maths très abstraits, certaines pour faire des arrêts réflexes lors d'un match de hand, d'autres pour jongler avec les subtiles nuances des mots lors d'une prise de parole ou l'écriture d'un texte, et d'autres encore pour percevoir les variations très fines d'un son ou d'une mélodie entendue. Revenons à nos jeux, et plus particulièrement à leurs mécanismes qui ne mettent pas tous en jeu les mêmes domaines de notre intelligence. Peut-on émettre l'hypothèse que mon goût pour des jeux de placement de tuiles comme Quadropolis ou Taluva est lié à une prévalence chez moi des capacités visio-spatiales ? Prévalence qui expliquerait également mon assez bon sens de l'orientation, mon intérêt intellectuel pour la géographie et l'urbanisme, ou ma tendance à la contemplation des paysages. L'excitation à l'idée de se lancer dans une partie d'un gros jeu de gestion et de stratégie comme Terraforming Mars ou SICE relève-t-elle chez une joueuse d'une prédominance des capacités de raisonnement fluide et des capacités de traitement des diverses informations et variables ? Que révèle de votre cousine Germaine cette appétence pour les jeux conviviaux comme le Time's Up, qui fait appel à son intelligence interpersonnelle et à ses capacités de communication ? Comment enfin expliquer le goût de cette bonne amie pour la frénésie des jeux de réflexes, tels que le Jungle Speed ou le Double ? Bien sûr, un jeu ne se résume pas à ses mécanismes, à son game design. Et d'autres aspects sont à considérer pour expliquer pourquoi on aime un jeu. Il en existe un dont le principe est d'agencer des tuiles pour développer une ville. Ça vous rappelle quelque chose ? Et non, il ne s'agit pas de Quadropolis, mais de Suburbia. Je vous accorde qu'il était facile de se tromper. Le thème et le mécanisme principal sont les mêmes. Et pourtant, le jeu Suburbia ne me fait pas très envie, parce que soyons honnêtes, le graphiste illustrateur a fait le minimum, et que le jeu n'est pas franchement beau. Qui n'a jamais été séduit par un jeu en raison de son matériel ? Les éditeurs savent que le succès d'un jeu repose en partie sur de jolis pions en bois, des figurines vraiment classe ou un plateau de jeu magnifiquement illustré. Parfois, c'est l'univers ou l'ambiance qui nous attire vers un jeu ou nous en éloigne, selon nos goûts, notre expérience, notre âge, nos intérêts intellectuels. Heroic fantasy, science-fiction, Angleterre victorienne, guerre, antiquité, Japon, animaux, sont autant de thèmes qui nous parlent plus ou moins, et rendront l'habillage du jeu plus ou moins séduisant pour nous. Enfin, ce peut être le contexte dans lequel nous avons découvert un jeu, j'entends par là l'occasion ou les personnes avec qui nous y avons joué, qui peuvent nous faire aimer un jeu ou nous le faire moins aimer. Résumons. Mécanisme stimulant, esthétique à mon goût, univers en phase avec ma curiosité, contexte de découverte agréable, voilà les critères qui influenceront notre goût pour un jeu. Souvent, plusieurs de ces critères ne seront pas à la hauteur, parfois il en manquera un, et exceptionnellement, un jeu les réunira tous et prendra une place privilégiée dans votre ludothèque. Pour conclure cette chronique, je vous invite à vous interroger à votre tour. Que disent de vous vos jeux préférés ? Que vous répondiez ou pas à cette question, que vous ayez trouvé ou pas encore le jeu qui rencontre parfaitement tous les critères que nous avons évoqués, surtout, surtout, continuez à jouer.
Oui, mais j'en savais rien, d'accord ? Ce sont les dés qui décident.
C'est à cause de lui que tu voulais pas jouer ?
Toi non plus, tu ne voulais pas jouer ? Tu as bonne mine avec ton « on a commencé un jeu il y a 26 ans et maintenant on va le finir ».
Armé de mitraillettes, de ballons ou de bonbons, l'adolescent francilien est accro aux écrans. Ce n'est pas un scoop.
Oui, c'est à ce côté loup-garou, on ferme les yeux, le Wendigo capture un scoop.
94% des collégiens jouent au moins une fois par semaine.
Ce sera la grande mode.
Se fabriquer un héros qui ressemble à ce qu'on aimerait être.
Ça me permet un peu de m'évader.
Mais du coup, vous jouez toujours au même jeu ?
Non, non, mais je sais pas jouer à vos trucs de toute façon.
Engager ce héros dans des aventures, combattre des monstres qui peuvent évoquer des personnages, des puissances paternelles. Maternelle.
Tu as perdu ! Tu as perdu ! Tu comprends ? Tu ne joues plus !